en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les Académiciens. Je suis très heureux de venir présenter ce travail devant vous parce que, effectivement, je pense que ça fait partie des grands débats que la société française doit affronter et que pour y arriver, elle a besoin de mettre de la raison là où en général on met de la passion. Et elle a besoin de mettre de la connaissance là où en général on met de l'ignorance. Alors vous avez évoqué ce travail qui est doublé d'un livre qui va sortir bientôt, le mois prochain, qui s'appelle « L'islam, une religion française ». Mon objectif est double, effectivement. Faire un état des lieux et le faire dans un état d'esprit non seulement universitaire, mais aussi opérationnel. Parce que je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de savoir que sur ce sujet-là, où en général en France, on a tendance à considérer qu'on ne peut rien faire, parce que c'est un sujet étranger, parce qu'on est dans un pays laïque, il y a en fait d'immenses choses à faire. Et la première chose à faire, c'est de comprendre, de faire un état des lieux clair, précis, qui donne des informations, et des informations, on verra, qui a une feuille de route qui, je crois, peut être mise en œuvre. Alors, je vais vous faire une présentation assez rapide. D'abord, un état des lieux global. Qui sont les musulmans de France ? Et quand j'emploie le mot ou l'expression « musulman de France », nulle stigmatisation ou affectation religieuse dans ma bouche. C'est juste une façon rapide de dire, de parler des Français de culture et de confession musulmane et des étrangers vivant en France de culture et de confession musulmane. Donc pour aller plus vite, je vais parler des musulmans de France. Je vais faire un point de vue plus approfondi sur l'offre, notamment l'offre de contenu sur Internet, parce que quand vous allez voir l'état des lieux de l'offre, vous allez comprendre en bonne partie la situation. Et puis, des éléments de réponse, notamment sur le financement, sur la construction d'une organisation qui aujourd'hui n'existe pas, des éléments de réponse parce que c'est une bataille idéologique et culturelle, en même temps que religieuse, et puis des éléments de réponse aussi peut-être du côté de l'État, de son rôle, des frontières aussi où il doit s'arrêter, mais des sujets aussi sur lesquels il doit s'engager. Alors, qui sont les musulmans de France ? On a fait une enquête, fondée sur une méthodologie que j'espère la plus rigoureuse possible, qui a été débattue mais pas vraiment contestée quand elle est sortie, débattue par des gens qui considéraient qu'on n'avait pas le droit d'interroger des Français sur la base de leur confession, sous prétexte que ce serait une stigmatisation ou un rétrécissement identitaire. Ce à quoi je leur ai répondu qu'il y avait des questionnaires sur les catholiques à peu près tous les 3 mois, sur les comportements politiques et religieux des catholiques, qu'il y en avait peu sur les autres religions pour une raison très simple, c'est qu'en fait ça coûte très cher de faire ce genre d'enquête. Quand on veut avoir un échantillon qui commence à être représentatif, c'est-à-dire qu'il faut au moins 1000 personnes, des catholiques, ce qui ressort de cette enquête et d'autres, c'est qu'on a à peu près la moitié de la population française de plus de 15 ans qui se dit catholique, 40% qui se dit athée, 6% donc qui se dit musulman, 2% protestant et 1% juif. Pour avoir c'est un échantillon représentatif de musulmans, donc 1000 personnes, on a interrogé sur la base d'une méthodologie complètement ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher, on n'a pas questionné plus spécifiquement dans certains quartiers ou dans certains départements parce qu'on savait qu'il y aurait plus de musulmans. Donc on a utilisé des méthodes traditionnelles. Pour avoir 1000 personnes, 6%, il a fallu questionner 15 000 personnes. Et questionner 15 000 personnes, ça demande un petit peu de moyens, ce qui explique que du côté des acteurs privés, ce type d'enquête soit rare ou en fait même inexistante. Et du côté de l'État, l'État a évidemment les moyens, et notamment l'Institut national d'études démographiques, de faire ce genre d'enquête. L'INED a fait avec l'INSEE un gros travail qui s'appelle l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui interroge les plusieurs générations de Français d'origine immigrée. Mais l'INED a toujours été, pour des raisons que je qualifierais quand même d'un petit peu idéologiques, extrêmement soucieux de ne pas rentrer sur les sujets religieux. Il y a dans cette enquête 2 ou 3 questions seulement, alors qu'en fait, on peut en faire vraiment beaucoup plus. Bon. Donc, 6% de la population de plus de 15 ans, quand on parle de l'ensemble de la population, on est plutôt à 8%. Pourquoi ? Je vais y venir un peu plus tard, parce que les musulmans sont plus jeunes que le reste de la population. Notre élément quantitatif important, on a l'image d'une religion qui submerge la société. La réalité, c'est qu'il y a 2 fois plus de gens qui sortent de la religion musulmane que de personnes qui embrassent la religion musulmane. Et ça, c'était une petite surprise. Ensuite, 3e élément quantitatif très important, ce n'est plus une religion d'étrangers en France. C'est une religion française. Les 3/4 des musulmans de France sont français, soit par acquisition pour 1/4 d'entre eux, soit parce qu'ils sont nés français, pour la moitié d'entre eux. Et comme je vous disais, ils sont plus jeunes que le reste de la population, ce qui veut dire qu'il va y avoir parmi les musulmans de plus en plus de personnes nées français, nées françaises, et qu'il va y avoir aussi de plus en plus de musulmans. Il y a une enquête très récente qui est sortie la semaine dernière, du Pew Research Center, qui est un think tank américain, qui a exactement le même chiffre que celui-là, c'est-à-dire sur l'ensemble de la population 8%, et qui fait des hypothèses en fonction des vagues migratoires, sachant qu'évidemment, plus il va y avoir d'immigrés qui vont venir de pays musulmans, plus il y aura de musulmans, mais indépendamment des vagues migratoires, la dynamique démographique fait que la part de la population musulmane va s'accroître. Elle va s'accroître parce qu'ils sont plus jeunes et parce qu'ils ont un petit peu plus d'enfants, mais en fait pas beaucoup plus que le reste de la population. Et puis, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, ce qui contredit d'ailleurs, enfin, ce qui va avec l'idée que les musulmans sont de plus en plus français, et c'est plus seulement des travailleurs immigrés. Deuxième élément, ce que je vous disais, leur démographie, la segmentation par âge. Alors, on a comparé là, dans les 2 graphiques, la population musulmane et puis la population française. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de personnes de plus de 50 ans et encore moins de plus de 65 ans. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les premiers immigrés sont très largement rentrés au pays. Je vous rappelle que la première vague d'immigration date des années 30, un petit peu sérieuse. C'était des Algériens ou des Franco-Algériens, puisqu'à l'époque, ils étaient français. Les grandes vagues ont commencé, en gros, avec la reconstruction, donc ça, c'est 1952-1953, avec un pic au début des années 60, et puis le regroupement familial, la période du regroupement familial a été marquée plutôt par une baisse de l'immigration que par une augmentation quantitative. Donc, il y a des musulmans en France dans le territoire métropolitain depuis maintenant plus de 80 ans. Il y a des musulmans en France hors du territoire métropolitain depuis 1830 et avec 3 départements en Algérie, je crois que ça date de 1865, avant 1870. Donc, le fait musulman en France est un fait ancien, mais évidemment, il y a une actualité nouvelle, avec notamment les chiffres qu'on voit à gauche. Donc, entre 26 et 49 ans, 55% de la population musulmane. Pour la population française, en général, 32%. Et en dessous de 25 ans, 29% des musulmans de France, ce qui correspond au même chiffre pour la population française. Mais la jeunesse de cette population, son dynamisme démographique, lui donne une visibilité dans l'espace médiatique. Un petit point avant de parler de la cartographie, qui est très important. On a l'image, à cause de l'histoire de l'immigration, on a l'image des Français d'origine étrangère, notamment maghrébine, et des Français de confession musulmane ou des étrangers de confession musulmane, comme, en gros, des travailleurs peu qualifiés venus reconstruire la France. Bon. Cette image ne correspond plus à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande divergence sociologique. À l'intérieur de cette composante de la population française, sociologique, parce qu'on voit qu'il y a une bonne partie, un bon tiers, Vous voyez, c'est ceux qui sont Bac plus 2 et plus, qui sont en train, qui ont pris l'ascenseur social, en gros. Et qui, en fait, on va pas rentrer dans les détails là sur la diapositive, mais qui, en fait, à niveau social égal, à niveau social d'origine égale, réussissent plutôt mieux que des Français qui ne sont pas d'origine immigrée. Ce qui est assez important, parce que, évidemment, ça change l'image qu'on peut en avoir. Et le discours qu'on a sur la faillite totale du système d'intégration ou du modèle français d'intégration, cette image est juste fausse. Elle est fausse, elle s'explique d'abord parce qu'il y a des échecs, elle s'explique aussi par ce qui, à mon avis, constitue le cœur du modèle français. Le cœur du modèle français, ce n'est pas un modèle d'intégration, à mon avis, c'est un modèle d'assimilation. Et ce n'est pas un choix politique de dire « il faut intégrer ou il faut assimiler ». Ce n'est pas une politique publique, l'intégration, c'est un fait de la société, c'est une action de la société qui correspond à une histoire, des valeurs, une forme de centralisation. Et du coup, le résultat, c'est que l'échec est criant, parce que c'est une contestation du modèle d'assimilation, mais le succès est silencieux. C'est ce que montre toute l'histoire française de l'immigration. On a oublié que tel ou tel est d'origine espagnole. On a oublié que tel ou tel est d'origine polonaise. On a oublié que tel ou tel est d'origine italienne. Et pourtant, quand ils sont arrivés, dans les décennies qui ont suivi leur arrivée en France, on n'oubliait pas du tout d'où ils venaient. Et ils avaient beau être européens et catholiques, en général, on leur reprochait, par exemple pour les Italiens dans la Provence déchristianisée de la fin du XIXe siècle, on leur reprochait leur catholicité. Les Espagnols ont considéré que c'était des bouffins d'huile d'olive. Les Polonais étaient très catholiques, ils étaient beaucoup trop catholiques pour la France de l'Est. Donc, ne commettons pas l'erreur, et elle est souvent faite dans le débat public, d'enjoliver les précédentes vagues migratoires, d'un côté, et d'oublier de ne pas voir les succès de l'intégration des Français d'origine maghrébine, puisqu'ils représentent, les Maghrébins, les trois quarts des musulmans de France. Il y a 10% qui sont originaires de Turquie, 10% qui sont originaires d'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Donc, il y a une partie qui est en train de s'en sortir. Et plus elle s'en sort, plus elle disparaît, plus sa différence initiale disparaît. Et ça, c'est un grand problème politique, je vais y venir. Il y a une partie intermédiaire qui est plutôt surreprésentée par rapport au reste de la population française. Vous voyez, c'est ceux qui ont le bac 60%, contre 40% pour l'ensemble de la population générale. Eux, ils sont dans une situation ambivalente. Et puis, ce qu'il y a, et c'est l'autre grande caractéristique, c'est que donc il y a plutôt d'un côté un succès légèrement supérieur à conditions sociales égales. Et puis de l'autre côté, il y a un échec très important qui se caractérise par non seulement le chômage, mais l'éloignement de l'emploi. On a des gens qui ne sont pas dans la recherche d'emploi. Dans cette catégorie-là, il y a des femmes qui ne travaillent pas, et puis il y a des jeunes décrocheurs qu'on connaît depuis longtemps. Dans les fameux 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, il y a beaucoup de jeunes de quartiers populaires, il y a beaucoup de jeunes de confession ou de culture musulmane. Donc le résultat, c'est qu'il y a à l'intérieur de cette composante sociale et religieuse de la société française deux grandes dynamiques. Et deux grandes dynamiques qui sont, comme je vous le disais, contradictoires, et qui aujourd'hui nous pose des problèmes. Non seulement parce que le nombre de ceux qui échouent est très important, et qu'ils trouvent dans la religion un substitut au projet républicain, voire une raison pour expliquer leur échec, mais aussi parce que ceux qui sont en train de réussir, alors qu'on a besoin d'eux, d'une certaine manière, pour ramener les autres, ils disent, écoutez, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet, et on l'a compris, on l'a vu, de façon très explicite au moment des attentats. Quand d'un côté on disait « disparaissez en tant que musulman », c'est ça la République. La religion est une affaire privée, elle n'a pas à voir ou à faire avec l'espace public. Et puis de l'autre côté, on leur disait « mais condamnez les attentats en tant que musulman ». Et là, ils vous disaient « ça s'appelle une injonction contradictoire ». Il y a des psychiatres de Palo Alto qui ont montré que ça rendait fou. Mais surtout, ils ont dit « mais écoutez, non ». Parce que nous sommes dans le cadre républicain, nous n'avons pas à nous exprimer en mettant en avant notre religion dans l'espace public. Je pense qu'il faut dépasser ce débat-là, parce que les attentats ont donné un caractère politique à la question musulmane aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, il y a un long cheminement et cette segmentation sociale explique la difficulté de ce cheminement. Alors quand on interroge les Français sur combien il y a de musulmans en France, en gros, ils vous répondent entre 25 et 30% de la population. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt on est à 6% des plus de 15 ans et sur l'ensemble, on est à 7-8%. Comment on explique ce hiatus? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a, comme je vous disais, l'actualité du phénomène religieux. On parle d'islam à peu près tout le temps au journal de 20h depuis en fait la fin des années 80. Je ne vais pas faire la liste des crises qui ont embrasé le monde musulman, mais entre l'Algérie, l'Irak deux ou trois fois, la Syrie aujourd'hui, l'Égypte, le phénomène islamiste au Maghreb, etc. Il y a une actualité extrêmement importante internationale. Il y a une actualité nationale aussi. En gros, on a découvert l'islam en France, enfin on a redécouvert l'islam en France en 1989 avec la première affaire du voile qui était à Creil, deux jeunes filles qui refusent d'enlever leur voile, elles étaient dans un collège. Et puis il y avait au même moment le début de la guerre civile algérienne et par ailleurs beaucoup de bouleversements géopolitiques, notamment la chute du mur de Berlin et le départ des Russes d'Afghanistan. Donc on a eu cette actualité-là, et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Par ailleurs, on sait, même si on n'a pas le droit de le dire, que dans nos prisons, notamment dans les prisons de ces régions-là, il y a un nombre de Français d'origine maghrébine et de confession musulmane qui est extrêmement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'actualité de la délinquance, il y a beaucoup de musulmans, et du coup, ça se voit. Et puis la troisième raison, elle est géographique. 8% sur l'ensemble du territoire, c'est 8%. Sauf que, vous voyez, alors cette carte, comment elle a été faite? On a, avec mon équipe, on a aspiré les données de sites qui, pour certains, veillent à l'islamisation de la France. Par exemple, trouvetamosquée.com, que je vous incite à aller visiter. Et puis, de ceux qui sont les vigies de la lutte contre l'islamisation de la France, notamment un certain nombre de sites d'extrême droite, qui publient tous des données très précises sur où est-ce qu'il y a des mosquées. Nouvelles. Donc on a pris les données de ces différents sites, on les a croisées, parce que ça permet de limiter les erreurs, et puis on les a exportées sur cette carte en recroisant quand même autant que possible avec le ministère de l'Intérieur. Et ça donne cette carte. Cette carte, c'est une carte en fait très simple à lire. C'est la carte de la reconstruction industrielle de la France, des années 50. Donc c'est le Nord, la grande région parisienne, la grande région Rhône-Alpes, la vieille immigration des années 30 dans la vallée de la Moselle, près du Luxembourg, au nord-est, une immigration plus récente en Alsace, avec essentiellement des Marocains et des Turcs qui sont venus plus tard que les Algériens en France, et puis deux endroits, Bordeaux et Toulouse, où il y a, pour diverses raisons, une immigration d'ailleurs qui est souvent marocaine. Bon, plus, évidemment, le grand arc méditerranéen, où il y a eu des vagues migratoires de Nice à Perpignan, là, assez distinctes, beaucoup de Tunisiens à Nice, beaucoup d'Algériens à Marseille, pas mal de Marocains à Perpignan. Voilà. Donc on a cette carte. C'est 25 départements. Si vous prenez 8% de la population, non pas sur 100 départements, mais sur 25, c'est-à-dire un quart du territoire, d'ailleurs même si on compte en kilomètres carrés, c'est moins d'un quart du territoire, ben, vous allez avoir le sentiment, c'est pas un sentiment, dans cette partie du territoire, il n'y a pas 8%, mais il y a plutôt 15, 20, 25% de musulmans. En Seine-Saint-Denis, parmi les jeunes, il y a différentes enquêtes qui montrent qu'il y a une majorité aujourd'hui de jeunes de moins de 25 ans qui sont musulmans. Mais du coup, ça explique la représentation usuelle du phénomène par la société. Parce qu'on a un phénomène qui est très concentré géographiquement. Du coup, les gens qui vivent dans ces régions se disent « bah, il y a beaucoup de musulmans ». Puis en plus, on les voit avec le voile, etc. Qui pose un certain nombre de problèmes, soit nouveaux politiques, soit des problèmes de vie quotidienne, notamment de surdélinquance. Et puis, il y a une actualité continue, nationale et internationale, qui fait qu'on arrive à ce sujet de cette représentation de 25-30% de la population musulmane en France, ce qui est évidemment faux. Alors, quand on essaye de comprendre maintenant qui ils sont, ce qu'on voit, c'est des phénomènes assez paradoxaux et en apparence contradictoires. D'abord, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance des musulmans à une communauté qui serait organisée, constituée. Là où il y a un point commun qui pourrait être dit communautaire, c'est une victimologie assez largement diffusée et d'ailleurs assez largement entretenue par des groupes et notamment des groupes politiques. La victimologie, voire la martyrologie, nous sommes des victimes du monde entier. Nous sommes des victimes de l'Occident, nous sommes des victimes d'un certain nombre de complots, nous sommes des victimes, etc. Et le fait est qu'il y a des discriminations colossales à l'égard des musulmans. On le sait parce qu'on a des enquêtes et notamment des testings sur l'accès à l'emploi avec des dispositifs scientifiques, je crois, assez robustes qui ont comparé pour le même CV, le même nom de famille et juste le prénom qui changeait. En l'occurrence, le nom de famille était Haddad, qui est un nom qui peut être chrétien, juif ou musulman. On a comparé l'accès à l'emploi. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que quand on avait un prénom musulman, on avait 4 ou 5 fois moins de chances d'avoir un entretien. Quand on avait un prénom juif, on avait 2 fois moins de chances d'avoir un entretien. Ne croyons pas que les discriminations à l'égard des juifs ont disparu. Et puis évidemment, quand on avait un prénom chrétien, ben, on était l'élément central de comparaison. Donc, il n'y a pas de communauté au sens où il n'y a pas d'intérêt commun. Par contre, il y a le sentiment assez défensif d'être victime de difficultés, soit de difficultés fantasmées, soit de difficultés qui sont des vraies difficultés réelles. Ensuite, quand il y a des organisations, parce qu'il y a bien des organisations, elles sont soit nationales, soit politiques. Soit nationales parce qu'il y a une identité franco-tunisienne, franco-algérienne, franco-marocaine, franco-turque, très puissante, qui a un lien avec l'islam, à l'évidence. Et puis, il y a des organisations plus ou moins politiques, plus ou moins idéologiques ou théologiques, la galaxie des frères musulmans, et puis ce qu'on appelle le salafisme, qu'on devrait appeler plutôt, si on veut être précis, le Hanbalo-Wahhabisme. Le wahhabisme, c'est l'idéologie saoudienne qui s'appuie, Mohamed Ben Abdel Wahhab est un prédicateur du XVIIIe siècle, qui s'appuie sur un théologien du XIIe siècle qui s'appelait Ibn Hanbal. Donc ça existe, et c'est ça qu'on appelle le communautarisme. Parce que, mais c'est pas un sujet national, c'est un sujet qui est souvent micro-local. On a des communautés organisées qui s'organisent suivant des codes religieux, une organisation sociale et en fait un système politique qui sont complètement en marge de la société française et pas en marge, qui sont opposés. Ça se voit beaucoup et ça s'incarne par un certain nombre de comportements. Ce qui est intéressant, c'est que les comportements qui ont été diffusés par ces groupes-là, en fait, rayonnent très au-delà de ce qu'on peut appeler les islamistes. Et ça, on l'a vu dans l'enquête de façon très précise, sur 3 éléments. D'abord, alors que la France est dans une dynamique de sécularisation avancée, je vous rappelle qu'on mesure plus ou moins bien la pratique religieuse, notamment des catholiques, par l'assistance à la messe, on est entre 5 et 10%. Les musulmans, on mesure la pratique religieuse par le respect d'un certain nombre d'interdits alimentaires, par le respect du jeûne de Ramadan. On est entre 2/3 et 75%. Le résultat, il est très simple, c'est que quand vous avez, allez, disons, 2/3 de 4,5 millions de personnes qui pratiquent, vous avez 3 millions de pratiquants. Quand vous avez 5% de 33 millions, il y a 66 millions d'habitants en France, c'est la moitié de catholiques, 5% de 33 millions, bah ça fait 1,6 million. Donc il y a plus de musulmans pratiquants en France que de catholiques pratiquants. Ce qui explique aussi la surreprésentation des 30% dont je vous parlais. Mais c'est aussi un élément commun qui est structurant à l'intérieur de cette communauté qui n'existe pas. On a des gens qui pratiquent énormément et qui pratiquent plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, ce qui est évidemment un autre phénomène différenciant avec le reste de la communauté nationale, puisque la pratique religieuse est plutôt en baisse en France. Deuxième élément, le halal. Le halal, c'est quoi ? C'est devenu un mode de vie. C'est pas seulement une pratique alimentaire, une façon de préparer la viande ou de sacrifier la viande. C'est devenu un mode de vie. Il y a la vie qui est halal et puis il y a la vie qui est halal. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il n'y avait pas de viande halal en France. Ça n'existait pas. La norme religieuse existait, évidemment, mais elle était vraiment très minoritaire. Aujourd'hui, dans l'enquête qu'on a faite, on a 80% des musulmans qui disent n'acheter que de la viande halal et qui voudraient aux deux tiers qu'il y ait de la viande halal dans les cantines scolaires. Quand on voit ça, on se dit, bon, ça y est, la France est islamisée, les musulmans sont islamicisés. La réponse, en fait, est plus complexe parce que, comme je vous le dis, c'est le halal et d'ailleurs le voile. On a à peu près les mêmes chiffres pour le voile. Hein. Deux tiers des femmes qui sont favorables à ce que les femmes portent le voile, un tiers qui le portent, et par ailleurs à peu près 0% à l'école. Mais sur ces deux sujets-là, on a une pratique, une vision du monde qui est plutôt une pratique islamiste. On peut discuter longuement, avoir des longs débats théologiques sur le halal, mais le halal n'a rien à voir avec le kasher hein, en termes d'obligation coranique. Mais cette pratique-là a diffusé très au-delà du consensus ou du noyau dur islamiste. Mais pourquoi c'est intéressant ? Je vais vous voir montrer ensuite la bataille des idées. C'est qu'en fait, ça montre juste que les islamistes sont en train de gagner la bataille des idées à l'intérieur, chez les musulmans de France d'ailleurs et d'ailleurs. Alors, on a fait une typologie idéologique. Qui a été fabriqué sur la base d'un certain nombre de questions, des questions qui sont des questions religieuses, mais des questions qui sont aussi des questions liées aux valeurs, à l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et on a fait la typologie avec plusieurs types de questions. En fait, on a fait plusieurs typologies. Bon. En gros, et je simplifie, hein, en gros, on a la moitié de la population qui, même si elle est beaucoup plus pratiquante que le reste de la population française, a un système de valeurs, un système de croyances, un système de pratiques qui s'apparente ou, disons, qui s'inscrit dans la dynamique des valeurs de la société française contemporaine. Ensuite, on a un bon quart où on a à l'intérieur de l'échantillon beaucoup de travailleurs immigrés, pour le coup, c'est-à-dire des étrangers, donc des immigrés de première génération. On voit qu'eux, ils ont importé, pour le coup, leur système de valeurs, qui vient essentiellement du Maghreb, de Turquie et puis d'Afrique subsaharienne. Donc avec des gens qui sont beaucoup plus conservateurs que le reste de la population française, mais qui comprennent qu'il y a une limite à l'expression du sentiment religieux. Et puis, on a un dernier quart qui a fait beaucoup parler au moment de l'enquête et que j'analyse longuement dans mon petit livre à venir. Ce dernier quart, bon, 28%, mais vous savez, il y a des marges d'erreur, qui a une caractéristique générationnelle, c'est qu'il est composé énormément de jeunes, parce que la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont dans ce dernier quart. Et cela, il se caractérise par plusieurs éléments, très faible connaissance de la religion, puisqu'on a posé des questions religieuses, utilisation à l'évidence de la religion comme support de rébellion, parce que ce qu'ils vont chercher dans la religion, c'est ce qui permet de s'opposer au système majoritaire. Et puis, une dynamique propre qui est forte, parce que c'est chez eux que se recrutent les militants de l'islamisme. Ils sont plus jeunes, ils sont en rébellion, ils vivent dans des zones où ils sont assez nombreux parce que très concentrés, et du coup, ils portent un projet, un dynamisme. Alors, comment on explique ? C'est très long et c'est pas forcément l'objet de cette communication. Il y a plein d'explications qui sont connues, identifiées, sur lesquelles je ne vais pas forcément longuement m'appesantir. Je voudrais insister sur trois éléments. La question de l'identité, la question du modèle familial et puis la question du prosélytisme. La question de l'identité, elle est à mon avis vraiment essentielle parce que il faut comprendre que l'islamisme n'est pas une religion, c'est une idéologie. C'est une idéologie politique, comme le communisme a pu être une idéologie politique, qui s'inscrit dans un moment assez précis de la vie de ses citoyens. En gros, on leur dit, et ça concerne plus les deuxièmes, troisièmes générations que les premières, on leur dit, bon, vous devez être français, sauf qu'en fait, vous ne l'êtes pas totalement. dans une autre enquête de l'INED, il y a en gros un tiers des personnes interrogées qui disent souffrir d'un déni de francité. Vous n'êtes pas des Français comme les autres. Je vous donnais les chiffres sur la discrimination dans l'accès à l'emploi, c'est pareil. Donc vous n'êtes pas complètement Français. Mais vous n'êtes pas du tout originaire ou citoyen de votre pays d'origine ou celui de vos parents. Vous n'êtes plus tunisien, algérien, marocain, turc, c'est un petit peu différent. Du coup, qui êtes-vous ? La réponse est évidente. Vous êtes musulman. Et vous êtes musulman, et c'est une identité qui est d'autant plus forte que c'est une identité universelle, dans un projet global, qui d'ailleurs, en général, s'articule avec une identité locale. Quand on interroge, qu'on fait des enquêtes sociologiques, qu'on interroge notamment ces jeunes, ils vous disent « moi je suis musulman et je suis de Sarcelles ». Et d'ailleurs pas de Sarcelles, mais de tel coin de Sarcelles. Donc il y a cette identité locale, familiale, avec une sociabilité très proche, très très grande échelle. Et puis il y a cette identité globale à très petite échelle. Et en fait, il y a une articulation très puissante entre ces deux échelles identitaires. La deuxième chose qui est absolument essentielle, à mon avis, à comprendre, c'est que ça s'inscrit dans un moment très précis du processus d'intégration ou d'assimilation. Ce moment, c'est la désintégration du modèle familial. Monsieur le Président, vous rappeliez que j'avais quelques origines au Maghreb. Je connais assez bien, j'y travaille beaucoup, le monde arabe. Dans le monde arabe, la figure du père n'est pas une figure contestée. Jamais. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des pères qui ont été très largement décrédibilisés. Décrédibilisés dans la société par le surchômage des ouvriers. Décrédibilisés dans le système familial. Et ce qu'on voit, en fait, on parle beaucoup de l'absence des femmes de l'espace public. On ne parle jamais de l'absence des pères de l'espace public. Les pères sont à côté. Et ils sont mis à côté, évidemment, par la dynamique sociale, mais aussi par leurs enfants. Les enfants ont honte de leur père. Ils ont honte de leur père parce qu'ils ont compris que les pères n'étaient pas en adéquation avec la société dont les enfants font partie. Les enfants ont honte de leur père et de leurs parents parce qu'ils considèrent que, d'une certaine manière, ils représentent un temps révolu, qui représente le passé, qui ne représente pas l'avenir. Que, du coup, la transmission des valeurs qu'ils vont incarner est biaisée et, d'une certaine manière, ce n'est pas les bonnes valeurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? L'autorité est décrédibilisée. Et les jeunes dont on parle, ils vont être islamisés, mais ils ne sont pas islamisés par la famille. C'est ça qui est très frappant. Ils ne sont pas non plus islamisés par la mosquée. Ils sont islamisés par les groupes de copains, par la sociabilité familiale, mais plutôt les frères, les cousins, etc. Et puis, je vais y venir, par Internet. Donc, la désintégration du modèle familial, il faut vraiment l'avoir en tête parce que ça explique énormément de choses. Quand le modèle familial explose, il est remplacé par un système d'autorité qui est alternatif et qui, en l'occurrence, est religieux. Et puis donc, c'est la troisième explication, il y a une montée en puissance du discours et du prosélytisme religieux dans l'espace public musulman qui est absolument considérable. Je vais y venir. Avant, un tout petit mot sur les institutions qui sont censées représenter les musulmans de France. Alors, elles sont totalement défectueuse. Bon, pour une raison très simple, c'est que le CFCM ne veut pas exister et d'une certaine manière ne peut pas exister et par ailleurs correspond à un âge révolu de l'histoire de l'intégration de l'islam en France. Pourquoi ? D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, les musulmans de France sont jeunes et ceux qui dirigent le CFCM sont plutôt âgés. Mais surtout, ceux qui dirigent le CFCM sont étrangers. Étrangers à la solde des pays d'origine, le Maroc, l'Algérie et la Turquie, et du coup représentent et défendent les intérêts des pays d'origine qui ont bien compris qu'ils avaient un levier politique sur la France par la religion. Quand l'État a essayé d'organiser l'islam, ça a commencé en 89, c'était Pierre Joxe, il avait pris soin de mettre dans le Corif beaucoup de personnalités qualifiées qui n'étaient pas des étrangers. Et puis Charles Pasqua, et puis les événements en Algérie, etc. Le souci de la sécurité a été de plus en plus important, et on a cru qu'en mettant en gros les services maghrébins dans l'Organisation de l'Islam de France, on allait pouvoir contrôler la radicalisation des jeunes d'origine maghrébine en France. Double échec parce que on n'y est pas arrivé. Parce que les jeunes, comme je vous le dis, fréquentent assez peu les mosquées, et les jeunes ont bien compris que, ben, en fait, quand ils voient arriver un imam payé par l'Algérie, le Maroc ou la Turquie, qui parle très mal français, qui vient souvent d'un milieu populaire et qui vient se présenter à eux, ben, ils ont très bien compris qu'il n'était pas un interlocuteur valable et qu'à aucun moment ils ne pouvaient avoir envie de l'écouter. Et puis la troisième raison, outre le fait qu'on a importé les querelles entre Algériens et Marocains, c'est que le CFCM est construit comme une pyramide qui va vers une organisation institutionnelle générale. Et sous la pyramide, il y a des mosquées, des fédérations de mosquées, et puis des mosquées grandes ou petites. Le problème du CFCM, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts financier. Le budget du CFCM est de 30 000 euros. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'en dessous, on ne veut pas l'alimenter. Et pourquoi on ne veut pas l'alimenter ? Parce que les Algériens, les Marocains et les Turcs qui tiennent le système ont intérêt à ce qu'il n'y ait rien au-dessus, tout simplement parce qu'ils veulent continuer à contrôler leur petit marché avec leurs interlocuteurs nationaux. Une mosquée, monsieur le grand rabbin, 30 000 euros. Ah, je vous promets 30 000 euros, et d'ailleurs la Fondation de l'Islam de France vient de mettre 25 000 euros pour éviter la banqueroute du CFCM, ce qui me semble être une très mauvaise idée. Mais en 30 000 euros, de la bouche d'un noir avec Bibèche. Donc il n'y a pas d'intérêt, il y a un conflit d'intérêts financier, politique et géopolitique, qui explique que ça ne marche pas. 9% des Français de confession musulmane trouvent le CFCM représentatif. Alors je vais accélérer. Un tout petit focus sur l'offre idéologique. Bon, on parle d'islam absolument partout, sur les sites grand public, sur les sites d'extrême droite, sur les sites islamistes et religieux, mais aussi sur des sites qui n'ont rien à voir avec l'islam, notamment jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, c'est un peu l'ancêtre de Facebook. C'est un endroit où on parle de jeux vidéo. Mais en fait, il y a un quart des forums qui concernent la religion, et notamment la religion musulmane. Pourquoi ? Parce que c'est fréquenté par des jeunes. Et l'islam travaille la jeunesse française. Ensuite, quand on regarde la muslimosphère, c'est tous les sites en français qui parlent d'islam. Premier site, c'est des sites de rencontres. Bon, même s'il y a une dynamique de métissage qui est très forte, il y a un marché pour la matrimonialité musulmane. Ensuite, il y a quelques portails, et puis il y a des sites avec des contenus religieux. Vous voyez, 4 millions de vues par mois pour Sajiddin et Ilm Shari'i, ça ce sont des sites religieux, en fait totalement inconnus. Ils ont juste une caractéristique, c'est qu'ils sont salafistes. Et puis les sites institutionnels, vous voyez, la mosquée de Paris fait 20 fois moins de trafic que les sites salafistes inconnus. Pourquoi cette réalité ? Tout simplement parce qu'il y a d'un côté des militants très engagés, pas forcément très organisé, mais très engagé. Et puis, de l'autre, il n'y a personne. Alors, je ne sais pas si on peut... Est-ce que ça marche ? Non. Bon, ça, c'est la carte des influenceurs musulmans sur Facebook, en français. En gros, et celle-là est un peu simplifiée, en gros, vous avez 50%, entre guillemets, du marché qui est tenu par des prédicateurs wahhabites. Vous avez une autre moitié du marché, le marché étant caractérisé par le nombre de personnes qui suivent ces locuteurs, qui est dans la galaxie, complexe à définir, mais dans la galaxie des frères musulmans, avec soit des pages pour le coup communautaires, soit très rigoristes, soit victimaires. Et puis vous avez tout en haut à droite quelques imams très isolés qui essayent d'avoir une parole en accord avec la religion musulmane et puis, on va dire, la modernité de non seulement la société française, mais du monde d'aujourd'hui. D'un côté, vous avez des militants, de l'autre côté, vous avez personne. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a personne sur le plan idéologique de l'autre côté. Il faut regarder la dernière colonne. La dernière colonne, c'est la majorité silencieuse dont je vous parlais, 47%. Cette majorité silencieuse n'a aucune offre qui lui correspond sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et puis de l'autre côté, vous avez les conservateurs, là ça correspond à peu près, et puis les autoritaires, les fameux 28%, qui sont des militants, qui sont jeunes, qui y croient, ben, eux, ils saturent pratiquement tout l'espace des réseaux sociaux et d'Internet. Pourquoi les silencieux n'ont pas d'offre ? Mais parce que d'une certaine manière, d'abord, ils sont pris dans une vague idéologique absolument considérable, et puis aussi parce qu'ils considèrent qu'ils sont en train de fabriquer leur propre islam. Ce qui est très frappant quand on interroge les uns les autres, c'est que, certes, ils sont très pratiquants, mais chacun va être pratiquant d'une façon un petit peu différente, sur un certain nombre d'éléments qui vont structurer la vie quotidienne, sur le rapport à quelques grands rites de passage, sur le fait de vivre avec d'autres musulmans ou pas. Tout ça est en train de s'inventer à très bas bruit, mais n'est pas du tout articulé, n'est pas du tout organisé. Et du coup, ça laisse de la place, une place énorme aux militants de l'islam et de l'islamisme. Alors ça, c'est juste c'est une analyse des prêches salafistes. Ce n'est pas du tout des prêches qui sont théologiquement complexes. C'est des prêches qui sont faits par des jeunes, pour des jeunes, et qui ne concernent que les sujets des jeunes. De quoi ils parlent ? De sexualité, de consommation, c'est-à-dire de vie quotidienne, de signes de piété, avec une obsession, c'est d'avoir une vie qui est une vie halal. Et puis, énormément d'eschatologie, parce qu'il y a l'idée d'autorité, il y a l'idée des fins dernières, etc., qui fait peur. Et la rhétorique, c'est essentiellement en français, avec quelques mots d'arabe, d'une certaine manière pour donner une touche locale ou une touche de crédibilité religieuse au discours. Il y a des gens qui sont très organisés, on connaît Tariq Ramadan, qui a 2 millions de followers, on connaît moins Rachid Elgey, même si Rachid Elgey, c'était l'imam de Brest, celui qui avait fait des déclarations sur « on va vous transformer en singe en porc si vous écoutez de la musique ». Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'après 2015, après le Bataclan, il a disparu des écrans de Facebook. Et puis, depuis 6 mois, il a réapparu. Il a réapparu en se présentant plus comme salafiste, mais comme conservateur. Et puis, il avait 150 000 abonnés, et maintenant, il en a 450 000. Il a un vrai dispositif marketing derrière lui. L'autre, Abdelmonaïm Boussena, c'est un jeune, alors né en France, originaire de Roubaix, qui est un récitateur du Coran, qu'il a appris par cœur, ce qui fait partie des morceaux de bravoure de la formation musulmane. Et il est en train de monter en puissance très rapidement dans le paysage de l'islam en français. Il y a un prédicateur converti qui s'appelle Mohamed François qui a 700 000 personnes qui le suivent. Il y a des sites automatiques, notamment qu'on appelle de rappel islam, qui permettent de structurer automatiquement la vie du croyant. Donc à différentes heures de la journée, il y a évidemment le rappel pour la prière, mais il y a des dits du prophète qui sont envoyés, etc. Enfin, il y a toute une logistique qui est presque industrielle pour prendre en charge la vie idéologique des musulmans de France. Et puis il y a des associations. Des associations caritatives, des associations qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui ont une capacité d'influence qui est extrêmement importante. Face à ça, face à cette bataille culturelle, la France, on va dire, est absente. D'abord, je vais en parler après, elle a décidé de ne pas apprendre l'arabe aux jeunes français. C'est un débat, on pourra l'avoir dans cette noble maison. Elle a été incapable de former des imams, parce qu'en fait, elle a délégué cette responsabilité aux différentes instances non représentatives et qui n'avaient pas intérêt à le faire, puisque chacun voulait avoir ses imams algériens, marocains ou turcs. Et puis, elle n'a pas vu la montée du phénomène idéologique. Alors, que faire ? Je ne vais pas être, trop long, parce que j'ai passé déjà beaucoup de temps. Je pense qu'on est arrivé, d'une certaine manière, à l'heure de vérité, à un grand moment. Ce grand moment, c'est le passage de relais entre la première génération des musulmans, je laisse de côté l'histoire coloniale, la première génération des musulmans de France qui gère encore très mal la religion. On arrive au moment où la religion musulmane doit être prise en charge par des Français de confession musulmane. Pourquoi des Français ? Pas seulement pour la nationalité, mais parce qu'il faut qu'il y ait des gens dont le seul intérêt soit qu'on puisse être français et musulman dans le calme et la paix, et dans le respect des règles de la République, et notamment de la laïcité. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui organisent et qui tiennent encore l'organisation de l'islam. Pourquoi c'est un grand moment ? Parce que c'est un changement de génération. C'est un changement de paradigme. Du coup, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne rien changer, même quand on sait que le système dysfonctionne. Pour ça, il y a un début de réforme qui a été mis en œuvre par Bernard Cazeneuve. La création, et c'était, je pense, une bonne idée, de la Fondation pour l'Islam de France, qui reprenait un projet qui avait été lancé par Dominique de Villepin, mais qui avait avorté, qui était la fondation des œuvres de l'islam. Pourquoi elle avait avorté? Parce qu'on l'avait, on avait donné son administration à des gens dont l'intérêt n'était pas qu'elle fonctionne. En l'occurrence, le recteur Boubacar, que je respecte, mais qui, à mon avis, ne défend pas les intérêts de la France. Sauf qu'on n'a fait que la moitié du chemin. La fondation, c'est bien. On peut s'interroger quand même sur le fait qu'elle soit présidée par une personnalité éminente, mais non musulmane, Jean-Pierre Chevènement. Mais le vrai sujet, ce n'est pas la fondation. Le vrai sujet, c'est l'association, qui est conçue comme adossée à la fondation, peu importe. Cette association, c'est quoi? C'est une association de financement. Il y a aujourd'hui beaucoup de consommation liée à l'islam en France. Il y a évidemment tout le marché du halal, qu'on évalue à 5 milliards d'euros. Il y a aussi les pèlerinages. Il y a 25 000 pèlerins qui partent chaque année faire le grand pèlerinage. Il y a 63 000 pèlerins qui font le petit pèlerinage. Et puis, il y a des dons. Il y a une étude britannique qui évalue, pour le seul mois de Ramadan 2016 en Grande-Bretagne, à 120 millions d'euros, les dons faits aux charities musulmanes. Il y a plus de musulmans en France qu'en Grande-Bretagne. Alors, ils donnent peut-être un petit peu moins, ils sont peut-être un peu moins riches, mais ils sont quand même nettement plus nombreux. Donc, on peut, à très grands traits, imaginer qu'il y a bien, il y a 3 millions de pratiquants, 50 euros par an, ça fait 150 millions d'euros de dons. Aujourd'hui, où va l'argent? Personne ne sait. Personne ne sait. L'argent du halal, il va entièrement dans des poches privées. 0 euro à l'organisation de l'islam, comme l'argent du cachère peut aller à l'organisation du judaïsme français. Le pèlerinage, 0 euro. 0 euro pour la communauté. Comment y organiser le pèlerinage? Le consulat d'Arabie Saoudite donne souvent, d'ailleurs tardivement, des visas. À qui? À des agences de voyage qui sont tenues, contrôlées par des gestionnaires de lieux de culte, des mosquées. Pour une raison simple, c'est que celui qui a la mosquée, celui qui a l'accès aux musulmans. Et le musulman doit passer par le gestionnaire de lieux de culte. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a comparé le coût du pèlerinage en France et en Allemagne. Il y a 1 000 euros de différence. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, c'est organisé essentiellement par la communauté turque. Et du coup, il y a un lieu centralisé qui distribue le service et l'accès au pèlerinage de façon uniforme. En France, on a décentralisé, mais du coup, on a mis un péage. Parce que ceux qui ont accès au visa, ils ont accès à un bien qui a beaucoup de valeur pour les musulmans, et ils le font surpayer, sous prétexte de services qui sont d'ailleurs souvent rendus avec beaucoup de mauvaise qualité. 1 000 euros pour 25 000 pèlerins par an, ça fait 25 millions d'euros. 25 millions d'euros qui vont dans la poche soit des gestionnaires de lieux de culte par l'intermédiaire des agences de voyage, soit des imams qui se transforment en guides touristiques sur place. Et puis le halal, c'est compliqué, c'est un marché extraordinairement opaque, très mal certifié, avec des conflits d'intérêts partout, des conflits sans fin sur les normes religieuses qui organisent le halal. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un très gros marché, d'ailleurs en croissance de 15 ou 20% par an, au dire de Carrefour et de Casino, et que si on prenait 1% du marché du halal, on aurait 50 millions d'euros qui permettrait de structurer la communauté, de former des imams, de salarier des imams, et de salarier des imams notamment. Je passe sur le détail. Ensuite, deuxième sujet, à mon avis essentiel, c'est la bataille de la connaissance. Bon, il faut de l'argent. Si on réussit à mettre de l'argent, et je vous dis, nul besoin de changer la loi de 1905. Nul besoin de changer la loi de 1905. Il y a plein d'argent en France. Mais si on ne mène pas la bataille de la connaissance, on est sûr de perdre la bataille idéologique. Pour ça, il y a plusieurs instruments. Il y a l'enseignement de l'arabe, j'en ai parlé. L'enseignement de l'arabe, en deux mots, c'est 50 000 enfants qui apprennent l'arabe au primaire par les ELCO, 8 000 qui apprennent l'arabe au collège et au lycée, seulement 8 000, et dit-on 80 ou 100 000 dans les mosquées. En décidant de fermer les classes d'arabe, puisqu'on a divisé par deux le nombre d'enfants qui apprennent l'arabe, en décidant de fermer les classes d'arabe, en fait, on a envoyé des jeunes Français apprendre l'arabe dans les mosquées, sachant que les parents musulmans, aux deux tiers, veulent que leurs enfants apprennent l'arabe. Et ils sont prêts à ce que ce soit encore majoritairement à l'école plutôt qu'à la mosquée. Même si à la mosquée, on vous explique qu'évidemment, c'est beaucoup mieux à la mosquée qu'à l'école, puisque l'arabe, c'est la langue du Coran, etc. Donc ça, c'est un sujet, c'est un problème politique, parce que quand on aborde ce sujet-là, on dit non au nom de l'assimilation, non au nom de l'histoire de la République française, des Bretons, etc., même si, en fait, c'était plus compliqué en Bretagne. Et puis la première chose qu'on dit, c'est qu'il faudrait mieux qu'ils apprennent le français avant d'apprendre l'arabe. Bon, il ne s'agit pas de remplacer le français par l'arabe. J'ai fait quelques tribunes dans Le Monde, j'avais lu les commentaires. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'enseigner l'arabe en deuxième langue, en quatrième, éventuellement de l'inscrire dans des cursus internationaux, des cursus bilingues, etc. C'est, à mon avis, le meilleur instrument de prévention que l'on ait aujourd'hui, avec un outil, celui de la République, la connaissance et l'esprit critique. Et on a encore des bons profs. La génération d'après, ils auront été formés dans les mosquées. La deuxième chose, c'est plus technique. Je suis pas sûr que le pouvoir politique soit prêt à s'engager sur ce sujet-là. C'est la formation des aumôniers. On a une aumônerie musulmane qui marche très bien à l'armée, où en gros le système est bien organisé, qui est catastrophique dans les prisons, où on a des gens d'ailleurs souvent de très bonne volonté, mais qui sont complètement déphasés par rapport, souvent en fait des travailleurs immigrés à la retraite, qui sont déphasés par rapport aux jeunes qu'il y a dans les prisons. Et puis il n'y a rien à l'école. Alors à l'école, en fait, il n'y a rien, sauf qu'en fait, il y a une aumônerie. Elle est devant la grille de l'école, elle s'appelle le Tablir, les salafistes et les frères musulmans, et elle est extraordinairement efficace. Donc mettre en place un système d'aumônerie, le professionnaliser, dans un contexte où il y a un travail intellectuel qui reste à faire et qui reste à mener, qui est un des problèmes d'ailleurs de l'islam de France. Ce travail intellectuel, ce retard intellectuel qui a été pris, il faut en tenir compte. Mais il y a un très gros travail de structuration. Et puis, je passe deux derniers sujets. Il faut une offre, une contre-offre religieuse sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne des jeunes, pour contrer les islamistes. Cette contre-offre, elle est absolument essentielle. Et d'une certaine manière, elle sera plus facile à produire en France que dans le monde musulman, parce que dans le monde musulman, aujourd'hui, c'est impossible de parler d'islam. Le combat, la bataille a été gagnée par les islamistes. Y compris dans les pays les plus avancés comme la Tunisie, le débat est interdit. Là où il reste possible, c'est en Europe, et notamment en France, pays où il y a la plus grande communauté musulmane, etc. Donc c'est un vrai sujet culturel, non pas pour la France, mais pour l'ensemble du monde, y compris musulman. Mais c'est un sujet sur lequel il faut s'armer. C'est une bataille culturelle, idéologique, politique. C'est une bataille qu'il faut gagner aussi par le discours religieux. Il y a des moyens de faire, il y a des exemples, il y a ce qu'ils ont fait, il y a des exemples de campagnes politiques. Cette bataille-là, il faut la mener. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut que l'État s'en occupe. Il faut que l'État s'en occupe dans un mouvement paradoxal. D'une certaine manière, il faut qu'il se désengage de la gestion du culte. Aujourd'hui, le bureau des cultes est le secrétaire, fait le secrétariat général du CFCM. C'est inefficace, incompréhensible et par ailleurs illégal. On est dans un régime de séparation. Et puis, l'autre séparation, c'est avec les pays d'origine. Il est complètement incompréhensible que l'Algérie, le Maroc et la Turquie continuent à financer des imams, au nom de quoi, je ne sais pas, certainement pas d'efficacité. Donc il faut qu'il y ait une déprise de l'État, comme je vous disais, une prise de pouvoir par les nouvelles générations françaises et musulmanes, et en même temps, l'État peut aider sur des aspects très opérationnels pour combattre non seulement les terroristes, mais ceux qui promeuvent une idéologie qui est absolument contraire aux valeurs de la République. Et pour ça, il a des moyens qui sont publics, il a aussi des moyens qui sont plus discrets, qui sont assez faciles à mobiliser. Mais plus je discute et j'échange avec les uns et les autres, plus je me rends compte qu'il n'y a pas de stratégie au sein de l'État. Il y a une stratégie de contre-terrorisme, il n'y a pas de stratégie de contre-insurrection idéologique. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Vous avez suscité un nombre significatif de questions. La première est d'Aïm Korsia.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment vous remercier pour la clarté de cet exposé et le fait d'avoir posé tous les problèmes, même si par nature, moi j'avais tendance à comparer avec ce qu'on peut voir, ce qu'on peut percevoir et ce qu'on peut attendre. Globalement, j'aurais trois types de questions, enfin trois questions, mais qui se résument en une. Ma question centrale, c'est est-ce que l'islam peut ou non apprendre de notre mode de vie? En gros, et c'est là les trois questions que je pose. La première, vous marquez, vous avez commencé à expliquer avec beaucoup de courage cette sorte d'injonction paradoxale dans laquelle on plaçait les musulmans. Disparaissez en tant que musulmans, vous avez dit. C'est pas comme ça que je l'aurais énoncé, parce que c'est pas comme ça que la République voit les choses. Le judaïsme n'a jamais été sommé de disparaître, le catholicisme n'a jamais été sommé de disparaître, le protestantisme non plus. L'idée, c'est d'intégrer cette identité distincte, dans laquelle on dirait le caractère propre de vos engagements spirituels, dans l'identité française. Et de ne pas opposer une identité, quelle qu'elle soit. Quelle soit, vous avez pris l'exemple de la Bretagne, j'ai beaucoup de tendresse pour la Bretagne, et j'ose pas choisir une identité plus insulaire et plus au sud, ça pourrait énerver certains de nos éminents confrères, mais globalement, de fond,
surtout aujourd'hui,
d'intégrer cette identité religieuse dans l'identité française. Et c'est ça, on n'a jamais dit qu'il fallait dissoudre, disparaître en tant que porteur d'une identité spirituelle. C'était le combat que l'Église a mené à sa façon au début du siècle dernier, et c'est en fait l'avancée énorme et formidable de la laïcité qui nous permet chacun et chacune d'être soi-même dans sa foi ou son absence de foi sans être plus ou moins français. Et donc quand on a non pas sommé mais qu'on a littéralement supplié nos concitoyens musulmans de dire comme l'ont fait les Anglais, comme l'ont fait d'autres musulmans d'autres pays, not in my name, pardon d'utiliser cet anglicisme, mais c'est comme ça qu'ils l'ont prononcé, on demandait juste aux musulmans de France d'être capables de se séparer, si j'osais une image biblique, mais c'est un privilège que je me suis octroyé dans cette haute assemblée, c'est exactement ce que, dans le livre des Nombres, Moïse demande à l'assemblée autour de Korach, avec ses 250 acolytes, séparez-vous de lui, parce que lorsque la terre s'ouvrira et les engloutira, ne soyez pas engloutis avec lui. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir une injonction paradoxale. Ne soyez plus musulmans, mais dites que vous ne voulez pas qu'on fasse en votre nom. Il s'agit simplement de dire, en tant que Français et portant notre spécificité musulmane, on ne peut pas accepter que quelqu'un fasse quelque chose en notre nom. C'est quelque chose d'assez faisable. Vous avez dit aussi quelque chose qui m'a surpris. Il n'y a pas de communauté musulmane. J'entends bien, parce que je peux dire la même chose pour le judaïsme. Il y a autant de juifs, si ce n'est plus, il y a autant de synagogues que de juifs en France, à peu de choses près. En tout cas, les façons de voir, de vivre son judaïsme, c'est la même chose pour l'islam. Sauf que dans l'islam, il y a un concept particulier spirituel qui s'appelle la Oumma. C'est donc l'appartenance à une communauté large, qui dépasse d'ailleurs les frontières de la France, et qui appelle à se construire aussi en rapport avec les autres. Même si on est distant dans la pratique, la Oumma veut dire quelque chose et on le sent. Une sorte de solidarité par nature spirituelle. Enfin, le halal, et ça c'était très intéressant, j'ai une question. Il y a quelque chose d'étonnant, je vais vous le dire, parce que d'abord je tiens à vous remercier pour la précision des 30 000 euros pour le budget du CFCM. J'ai envoyé un texto à l'ancien président du CFCM, qui m'a confirmé le chiffre, ça m'a fait frémir, et je lui ai dit que Dieu prie pour vous. C'est tout ce que je pouvais lui dire, parce que c'est tout ce que je voyais comme possibilité. Le halal a augmenté aussi parce que beaucoup de nos concitoyens musulmans, par le passé, consommaient du kasher. Et nous, on a vu, parce que le kasher est accepté pour les musulmans, et nous, on a vu les chiffres baisser de consommation par les musulmans qui allaient dans les boucheries kasher. Comme si finalement on ne peut plus acheter la viande cachère, il faut qu'on ait notre propre système. Et je le comprends. C'est de la même façon que j'avais milité à l'époque pour que l'aumônerie des armées intègre une aumônerie musulmane. Mais la pratique religieuse, c'est vrai qu'on le voit. On le voit par exemple dans les chapelles des aéroports à Paris, où la mosquée est le plus visité des lieux. Mais c'est ce que je dis. Nous, les autres cultes, on a su apprendre de cette religiosité de l'islam, qui est à la fois émouvante et qui nous rappelle à nos propres obligations. Donc je reviens à cette question. Est-ce que l'islam peut aussi apprendre notre mode de vie intégrée dans la vie républicaine. Par exemple, vous parlez de l'aumônerie. Pardon, mais l'aumônerie, les aumôneries ont été maintenant codifiées de sorte qu'aucun aumônier ne peut entrer dans une des fonctions, soit à l'armée, dans les hôpitaux ou en prison, sans avoir passé un DU de laïcité. Sciences Po a mis en place un programme remarquable qui s'appelle Emouna, où on forme tous les dirigeants des cultes ensemble. Donc il y a une part qui est prise par l'État ou par des collectivités, par des institutions, mais les musulmans ou l'islam en France, à défaut d'être l'islam de France, ne peut pas toujours externaliser la responsabilité sur l'État. Je pense que depuis 1905, les religions ne disent plus qu'est-ce que l'État peut faire pour nous, mais elles disent qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'État. Voilà, me semble-t-il, ce qui devrait être la feuille de route de l'islam de France aujourd'hui.
Hakim El-Karoui.
Merci, monsieur le grand rabbin, de ces questions informées, parce que vous connaissez bien le sujet, je le sais. Je vais répondre peut-être globalement. La question de l'identité, le problème qu'on a, c'est que ça revient en fait à la cartographie sur Facebook. Le discours sur l'islam est tenu par les islamistes, qui font de l'identité musulmane une globalité. Et la difficulté qu'on a, c'est que les 50% qui sont dans la dynamique de l'intégration, ils ne prennent pas la parole. Et du coup, ils laissent le discours sur l'islam aux autres. Et quand ils disent il faut disparaître en tant que musulman, je suis bien d'accord avec vous, dans l'espace privé, la République ne demande pas d'abandonner ni sa foi, ni sa culture d'origine. Le problème, c'est que ceux qui tiennent le discours considèrent qu'il n'y a pas de limite. Et ceux qui devraient dire qu'il y a des limites et qu'on peut être musulman et républicain, ou plutôt français et républicain, ceux-là, on ne les entend pas. Et on ne les entend pas pour deux raisons. La première, c'est que les autres sont beaucoup plus puissants, mais puissants, pas seulement politiquement, ils sont plus militants. Et puis, la deuxième raison, c'est que, malgré tout, il y a une gêne, un malaise à parler de religion dans un système qui est de plus en plus sécularisé et où, alors c'est peut-être la victimologie qui est si partagée, les gens craignent, ont peur de se mettre en avant. Moi, je pense que le moment où on est arrivé, et c'est très modestement mon parcours personnel, moi j'avais toujours décidé, vous avez rappelé mes engagements, etc., jamais m'occuper de religion. Jamais. J'ai changé d'avis en 2015, voyant notamment l'absence de réaction de la communauté musulmane, qui n'existe pas, en disant « mais c'est pas possible ». Mais moi, mon raisonnement est très simple, consiste à dire « ce n'est plus une affaire privée, c'est une affaire publique, c'est une affaire politique ». Le fait qu'il n'y ait pas ou pratiquement pas français de confession musulmane qui, d'une façon ou d'une autre, s'engage contre le terrorisme et plus généralement contre l'islamisme, c'est un problème politique. Donc il faut y répondre par un engagement. Quand je parle de ce changement de génération, derrière, au-delà des aspects techniques d'une certaine manière, de financement et de mettre des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts en charge de la gestion et du management de ces institutions religieuses. Derrière, il y a l'idée de mettre en marche, et j'utilise l'expression à dessein, en marche les musulmans de France. Ils se disent, maintenant, il faut y aller. Maintenant, vous allez y aller, d'une certaine manière, non pas en tant que musulman, mais en tant que Français. Parce que, c'est ce que vous disiez à la fin, la question, c'est, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la France ? Fameuse phrase de Kennedy, ou pour les États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a 1000 choses à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est ce combat culturel. Ce combat, on ne le gagnera pas si on ne met pas toute cette partie de la population, si on ne l'engage pas, si on ne la met pas en marche. Mais on n'y arrivera pas si on continue de lui dire que ceux qui doivent gérer, c'est, pardon, les blédards, les immigrés, qui sont pour eux juste des étrangers, qui viennent avec leur agenda politique, leur conflit personnel, leur conflit politique entre l'Algérie et le Maroc, et dans lesquels ils ne se retrouvent absolument pas. Donc, Oui, on peut dépasser la contradiction, l'injonction paradoxale. Il faut bien l'expliquer, bien la comprendre. Il y a un rôle pour l'État qui est de se mettre en retrait et en même temps donner les clés. Je crois effectivement par ailleurs que le halal... alors, le halal est devenu... Enfin, les musulmans ont acheté du cachère parce que c'était la seule offre halal. Puisque tout ce que, enfin, pour information des académiciens, tout ce qui est cachère est halal et tout ce qui est halal n'est pas cachère. Un des obstacles, c'était quand même le prix. Parce que, si je ne m'abuse, ne serait-ce que la taxe de cacheroute sur le kilo de viande est de 2,50 euros, quand l'équivalent, même si c'est différent disons, de contribution halal, est plutôt de 0,10 centimes. Donc la viande cachère est une viande très chère, indépendamment d'ailleurs de sa consommation par les musulmans ou pas. Donc il y avait un problème économique. Et puis après, il y a un business. Il y a un business qui s'est développé, qui est tenu par des islamistes, c'est ça qui est intéressant. Quand on regarde la théologie du sujet, le Coran est très clair sur est-ce que vous avez le droit de manger la viande des gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. C'est la sourate 5, le verset numéro 5. Il dit, vous mangerez la viande des gens du livre. Et il dit juste après... D'ailleurs, vous pourrez épouser les femmes des gens du livre. Bon, personne n'a remis en cause, à part quelques salafistes, le fait que des musulmans épousent des non-musulmanes. Par contre, tout le monde a remis en cause le fait que des musulmans mangent de la viande, qui n'est pas une viande qui a été abattue selon le sacrifice rituel. Et vous savez quel est l'argument qui est employé par les prosélytes du halal ? C'est que les chrétiens et les juifs en France, donc ceux qui abattent la viande qui n'est pas halal, ne sont plus assez chrétiens et juifs. Ce ne sont plus des gens du livre. Donc c'est une vague qui est une vague de marketing. Il y a un livre qui s'appelle Le Halal, la tradition réinventée, tradition qui reposait sur rien de en tout cas on peut en débattre théologiquement longuement, et c'est devenu un marché absolument florissant qui ne contribue en rien au financement de la communauté. Quant à la Houma, c'est vrai que ça existe, mais je pense qu'elle est en train de se dissoudre en France. Je parle des 50%. Hein. Je pense qu'il y a des liens familiaux qui restent, il y a des liens avec les pays qui continuent à exister, mais le sentiment d'un destin commun ou d'une appartenance, je pense qu'elle est en train... En fait, paradoxalement, ça va avec la divergence que j'exprimais sociologique, que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'elle est en train de se défaire.
Il nous reste 8 questions pour 28 minutes.
Oui,
alors, les questionneurs et vous-même avez à intégrer cette donnée. Rémi Brague.
Mille pardons. Merci, monsieur le président. Je dois me servir du micro de ma voisine. Je n'ai pas de micro. Voilà, donc merci pour cet exposé qui m'a appris des tas de choses. J'ai plusieurs questions, mais elles sont toutes petites et méthodologiques. Concernant les statistiques que vous nous avez montrées, vous avez dit qu'il y avait deux fois plus de personnes qui quittaient la religion que de convertis. Comment fait-on pour mesurer, étant donné que quand on se convertit, il y a un acte officiel, enfin, on le dit, éventuellement on le proclame, en tout cas on l'écrit quelque part. En revanche, quand on quitte, bon, il est rare que l'on, je ne sais pas, que l'on piétine le crucifix, comme autrefois au Japon, ou les choses comme ça. Donc je me demande comment on peut faire. Deuxième remarque, là aussi, de méthode. Vous avez dit que les musulmans n'avaient pas beaucoup plus d'enfants que les chrétiens, que les non-musulmans chrétiens, ou ces 40% d'athées dont vous nous avez parlé. Est-ce que l'on peut savoir à quel âge le premier enfant arrive, enfin quel est l'âge des parents, bien entendu. Je crois que c'est assez important dans les statistiques. Troisième petite remarque, c'est une perplexité de ma part. Vous avez dit que les femmes étaient nettement plus nombreuses que les hommes. Vous avez parlé de 55%. C'est assez curieux parce que on sait que sur 100 bébés, il y a, enfin dans tous les pays, dans tous les temps, semble-t-il, il y a 51 garçons, 49 filles. Alors d'où vient ce différentiel ? Est-ce qu'on a des idées sur possible explication ? Bon, j'avais une petite remarque à faire sur le nom de Haddad, mais enfin bon, qui est un nom de Rémi, d'une manière générale, comme beaucoup de noms de métier. Haddad, oui. Le forgeron, oui. c'est un nom de métier, et très souvent c'est un nom de Rémi. Alors j'aurais voulu savoir comment il se... pouvait se faire.
Ah non, il y a des Haddad par exemple en Tunisie.
Bien sûr, je sais bien. Plein. Je sais bien. Ouais. La question, justement, comment ça se fait. Enfin, vous pouvez laisser ça, c'est vraiment du détail. Et puis, alors, ma dernière question, c'est, vous avez distingué à plusieurs reprises de votre exposé des éléments religieux et des éléments qui ne le sont pas. Quel est le critère ? C'est assez difficile dans l'islam de distinguer ce qui est religieux de ce qui ne l'est pas, puisque du point de vue des non-musulmans et principalement des gens de tradition chrétienne qu'ils adhèrent au christianisme ou qu'ils les laissaient tomber, il y a des choses qu'ils considèrent comme religieuses et d'autres qu'ils ne considèrent comme ne l'étant pas, et qui, pour d'autres religions, l'islam mais aussi bouddhisme ou autres, sont alors vraiment centrales dans la religion. Voilà, merci.
Hakim El-Karoui.
Alors, le chiffre sur les convertis, c'est très simple. On n'a pas été demandé aux gens s'ils étaient convertis. On a fait une enquête, on leur a demandé, donc on a interrogé 15 000 personnes pour trouver environ 1000 musulmans, et on a posé, donc on a demandé aux gens, aux 15 000, quelle est votre religion ? Catholique, athée, musulman, juif, protestant, autre. Et on leur a demandé quelle est la religion de vos parents. C'est comme ça qu'on a pu mesurer le chiffre de convertis et le chiffre de ceux qui sont sortis de la religion. Parce qu'on a deux fois plus de gens qui se disent musulmans, qui ont des parents musulmans, que des gens qui se disent musulmans, qui n'ont pas de parents musulmans. Voilà, c'est que le chiffre vient de la filiation de religieuse entre deux générations, puisqu'on a pu la calculer. L'âge du premier enfant, alors ça évidemment c'est pas dans l'enquête, on l'a pas sur la religion, on l'a sur les immigrés. Et en gros, ce qu'on sait, ça c'est les enquêtes de l'INED, c'est que on a en 10 ans un alignement de la fécondité des femmes immigrées sur les femmes françaises. Et cet alignement se fait par l'âge au premier enfant, c'est votre question, qui est considérablement plus éloigné en France pour des communautés maliennes, algériennes, marocaines que dans le pays d'origine. La différence, il n'empêche qu'il y a plus d'enfants qui viennent de ces communautés, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que la structure par âge est différente. Il y a plus de femmes d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, etc. Ces femmes-là sont plus jeunes que les femmes qui ne sont pas d'origine immigrée. Et donc, comme elles sont plus jeunes, en fait, elles ont plus d'enfants. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une surfécondité. Ce à quoi on assiste, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt un alignement de la fécondité et, en fait, des règles matrimoniales des immigrés. L'autre grande caractéristique française, j'en ai pas parlé, c'est le nombre extraordinairement élevé des mariages mixtes. Et ça, c'est quand on compare la France avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou même la Belgique. On est à 25-30%. Alors, il y a des débats, parce qu'il y a peut-être des mariages mixtes avec des gens qui viennent, en fait, des mariages organisés avec des immigrés et des Français, un immigré d'Algérie qui se marie avec une Française d'origine algérienne. Donc, est-ce que c'est un mariage mixte ? On peut en débattre. Sauf que nous, on a des éléments sur la pratique et le système de croyance des gens issus des mariages mixtes, et ils sont beaucoup plus conformes au système majoritaire que ceux qui ne sont pas issus de mariages mixtes. Que le mariage mixte soit un mariage mixte, disons musulman, non musulman, ou que ce soit un mariage mixte immigré de première génération, immigré de deuxième génération musulman. Troisième sujet, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes ? Je ne sais pas bien, franchement je ne sais pas bien. C'est étrange. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours au pays, dont on ne parle évidemment jamais, parce qu'on parle toujours de l'immigration, on ne parle jamais de l'immigration des anciens immigrés. Et ça, il y en a beaucoup, on le voit très bien dans la pyramide des âges, parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens de plus de 60 ans. Et puis le dernier sujet, est-ce que vous avez un exemple sur l'islam qui envahit, où il n'y a pas de différence entre le séculier et le temporel et le religieux.
Je veux simplement dire qu'il y a des pratiques, si vous voulez, qui ne passent pas pour religieuses dans la conscience, disons, souchienne, et qui paraissent importantes pour l'islam. La vêture, la nourriture, la barbe.
Alors, en fait, il y a toujours, c'est important, il y a l'islam et l'islamisme. Les islamistes vont vous expliquer que vous avez un système de valeurs qui fait que vous devez vous comporter, et que d'ailleurs tout dans la religion est codifié, et va vous expliquer du matin au soir ce que vous devez faire, la façon dont vous devez vous laver, vous habiller, vous embrasser, etc. Ce qu'on voit et ce qui est intéressant en France d'une certaine manière, c'est que la dynamique de l'intégration fait que ce débat-là recule. Et d'ailleurs, il recule. Il n'existait pas au Maghreb, où il existait d'une façon complètement différente. Cette dynamique-là, c'est une dynamique islamiste, très largement. Et c'est un islam réinventé. Ce à quoi on assiste, c'est une néo-islamisation. L'islam de toute éternité, les islamistes vont dire qu'ils le connaissent. Moi, je ne connais pas l'islam, je connais les musulmans. Les musulmans, c'est des pratiques, des valeurs, etc. Après, il y a des gens qui disent, moi j'ai le vrai islam, et le vrai islam te dit de faire ci, de faire ça, etc. C'est quelque chose d'assez traditionnel dans les religions.
Voilà, c'est le tour de la question de Chantal Delsol. Il nous reste 7 questions pour 20 minutes, c'est-à-dire à peu près 3 minutes... Excusez-moi.
Pardon. Il a déjà été répondu à ma question. Merci, Monsieur le Président.
Très bien. Merci. Donc, nous allons passer à la question de Jean-Robert Pitt.
Très brièvement, merci beaucoup, cet exposé passionnant. Je me réjouis d'apprendre que Sciences Po a ouvert une formation qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est là. Très bien, parce que en 2006, lorsque j'étais président de Paris-Sorbonne, à la demande de Dalil Boubaker et du recteur de Paris, on avait essayé d'ouvrir une formation à la laïcité à Paris-Sorbonne, en accord d'ailleurs avec Paris 2 qui aurait dû enseigner le droit, et ça nous a été refusé par le SNESUP, l'UNEF et la CGT. Voilà, mais ma question, ce qui est une absurdité, c'est finalement l'Institut catholique qui a ouvert cette formation, ce qui est quand même plutôt paradoxal, mais tant mieux. J'espère que ça fonctionne bien. Non, ma question est, est-ce qu'il est envisageable et souhaitable d'ouvrir une formation à la théologie musulmane dans le cadre d'un concordat amélioré à Strasbourg, comme il existe donc de la théologie catholique, protestante et juive, et qui évidemment impliquerait une acceptation de l'esprit critique, ce qui n'est pas si facile que ça, j'imagine.
Je vous en prie.
Je vais répondre rapidement à cette question facile. Alors, est-ce que c'est si on est dans le court terme politique, je dirais non. Pourquoi ? Parce que si on veut ouvrir l'islam au concordat, Alsace-Mosellan, il faut une réforme de la Constitution. Il y a eu deux questions, deux QPR auxquelles a répondu le Conseil constitutionnel de deux manières différentes. Pour expliquer de deux manières différentes que c'était pas souhaitable de toucher au concordat. Un pour dire que puisque ça, je parle sous l'autorité de Monsieur Deloitte de Saint-Marc, pour dire que soit la Constitution de 1958 n'avait pas changé ni celle de la 5e, ni celle de la 4e, ce dispositif-là, et que donc c'était réputé, ça avait été entre guillemets constitutionnalisé, soit que c'était une exception à la règle et que la dynamique n'était pas d'élargir les exceptions, mais plutôt de les réduire. Dans le rapport que j'ai fait pour l'Institut, moi je me prononçais pour l'extension du concordat à l'islam, malgré ses difficultés constitutionnelles. Parce qu'en fait, on a besoin d'interventions, y compris publiques, pour l'islam, pas pour le judaïsme, pas pour les deux cultes réformés et pas pour le catholicisme. Donc il y a une forme de paradoxe à se lier les mains, sachant que, en fait, quand même, en 1870, comme je l'ai rappelé, l'islam était un culte français, géré par la France, avec des imams qui étaient salariés et qui étaient formés par la République, sauf que c'était en Algérie, et qu'en Algérie, ils étaient régis par le code de l'indigénat. Aujourd'hui je vous dirais non, parce que si on voulait le faire, il faudrait probablement changer la Constitution avec un débat politique dont on connaît le début, et en fait on connaît la fin, c'est que ça se fera pas. Donc ça sert à rien d'ouvrir des batailles perdues d'avance.
Georges-Henri Soutou.
Merci beaucoup monsieur pour votre exposé. Je verrai directement à la question très précise dans l'un de vos tableaux que l'on serait heureux peut-être de recevoir sur nos ordinateurs, c'était possible, ils sont très riches. J'ai lu ceci que vous n'avez pas eu le temps, je pense, de développer. Parmi les missions, les tâches de la République française pour assurer, etc., j'ai lu, me semble-t-il, reconsidérer sa politique extérieure à l'aune de son discours sur le salafisme. Pardonnez-moi, je n'ai pas les bonnes lunettes sur le nez. Est-ce que vous auriez la gentillesse, si vous pouvez, développer un peu ce point, à mes yeux, essentiel ?
Hakim El Karoui.
Pardon, je m'excuse. Alors, j'ai fait un autre travail depuis, qui est ici, qui s'appelle Nouveau Monde Arabe, Nouvelle Politique Arabe pour la France, qui développe ce sujet-là. Parce que, et le point de départ de ce rapport-là, c'est une photo de François Hollande qui remettait la Légion d'honneur à Mohamed Ibn Nayef, qui était le ministre de l'Intérieur saoudien à l'époque. Et puis l'après-midi même, ou deux jours après, Manuel Valls qui disait « il faut lutter de toutes nos forces au nom de la République contre le salafisme ». Donc il y a un moment, il faut quand même être cohérent. Les Saoudiens, après tout, ils ont bien le droit, développent et diffusent une idéologie, je vous ai dit, elle était moins salafiste que wahhabite, qui est en totale contradiction avec nos systèmes de valeurs et qui est un pont vers le terrorisme. On peut en débattre, ils en débattent, etc. Bon. Ce que j'ai fait là, c'est essayer de savoir si on dépend d'eux. Sur le plan commercial, sur le plan militaire, sur le plan pétrolier, sur le plan politique. La réponse est non. Mais on a une représentation de nos liens avec l'Arabie Saoudite qui fait qu'on pense qu'on est comme en 1973 où 85% de notre approvisionnement pétrolier venait du Golfe. Bah, aujourd'hui, c'est 25%. Le seul sujet où on a un peu de dépendance, ça ne va pas vous étonner, les contrats militaires. 50% des prises de commandes à l'exportation se font dans le Golfe, avec quand même des différences entre l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats. On ne vend pas de matériel très sensible aux Saoudiens. On en vend aux Qatariens, puisqu'on dit Qatariens. On vend des Rafales, et on va en vendre d'ailleurs, je crois, 12 de plus. Et avec les Émiratis, on a un accord militaire, puisqu'on a une base. Avec les Saoudiens, en fait, on vend du matériel qui n'a pas une importance stratégique absolument vitale. Mais oui, évidemment, il faut reconsidérer nos relations avec eux. Et il faut d'autant plus le faire qu'on a un prince héritier qui va prendre le pouvoir bientôt, qui clame partout, qui veut rompre avec le wahhabisme. Il faut le prendre au mot. Je ne suis pas sûr qu'il ait les moyens de son ambition, on va voir, mais après tout, puisqu'on a cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, il faut la saisir. Mais s'ils ne font rien, il ne faut pas que nous, on ne fasse rien.
Yves Codemet.
Oui, merci beaucoup. Merci pour cet exposé passionnant qui m'a appris des tas de choses, mais je ne vais pas prolonger ma question. Vous avez dit tout à l'heure les difficultés qu'il y avait sur le plan juridique à aller vers un concordat. Je crois que c'est tout à fait impossible. En revanche, lorsque nous étions dans le cadre de la commission que présidait mon collègue M. Machelon pour l'anniversaire de la loi de 1905, nous avions réfléchi à d'autres aspects juridiques, et notamment la possibilité de créer des circuits de financement, ce qui n'est pas du tout interdit par la loi de 1905. Il y faut un texte législatif, et il y en a déjà beaucoup eu, en direction des différentes religions. Alors je pense à cela parce que vous avez évoqué le financement par les associations, plutôt que par le Conseil français du culte musulman, et nous avions mis sur place un système de financement par les associations cultuelles, qui n'a pas bien fonctionné, parce qu'il nous a semblé que finalement le mécanisme de l'association cultuelle ne correspondait pas à ce que voulait le culte musulman et que notamment il rétablirait ces disparités régionales d'origine nationale que vous avez signalées tout à l'heure. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un autre mécanisme de financement par voie associative qui rectifie finalement ces flux financiers dont vous avez évoqué le cheminement qui n'était pas tout à fait celui qui convenait ?
Alors sur la question du financement, plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de financement public. Ça tombe bien, ils sont interdits, sauf pour les aumôneries et les lieux fermés.
Ils ne sont pas interdits au bénéfice d'un texte législatif. C'est comme ça qu'on a créé le variant futéotique culturel, c'est pas interdit, il faut un texte législatif. On peut créer des mécanismes de financement.
Oui, c'est pas interdit par la Constitution, mais là on revient au sujet du concordat. Ce serait un débat politique s'il fallait faire un texte qui permettait un financement public. Ce serait un débat politique sans fin et à mon avis que l'on perdrait à coup sûr. Par ailleurs, je pense qu'on n'a pas besoin de financement public parce qu'il y a plein d'argent. Il y a les 5 milliards du halal, il y a les, je vous dis, 25 000 et 63 000 pèlerins qui à chaque fois ont une consommation islamique. Et puis il y a les dons, et les dons c'est sans contexte 150, 180, peut-être 200 millions d'euros par an. Le sujet c'est pas l'argent, c'est mettre un petit péage pour que sur chaque consommation, il y ait un prélèvement très petit qui sera versé à une organisation, loi 1905, d'intérêt général. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit où il y a quelque chose qui ressemble à de l'intérêt général. Il n'y a que des intérêts privés, des intérêts particuliers. Pourquoi il n'y a pas d'association 1905 ? Parce qu'elles doivent publier leurs comptes. Elles publient leurs comptes puisqu'il y a un dégrèvement fiscal de 65%. Et les gens qui gèrent les associations musulmanes ne veulent pas publier leurs comptes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des détournements, parce qu'il y a des enrichissements indus, parce qu'il y a aussi, plus simplement, un manque de professionnalisme. Quand je vous parle du problème de génération auquel on est confronté, c'est un problème de compétence aussi. Donc, à mon avis, on n'a même pas besoin de changer la loi, tant mieux, parce qu'on n'y arriverait pas. Par contre, il faut mettre la main sur l'argent. Et pour ça, on a besoin de donner à des gens sans conflit d'intérêts la responsabilité de la collecte et de la gestion de cet argent. Et on peut y arriver.
François Dorcival.
Merci, Monsieur le Président. Ma question est toute simple. L'exposé que vous nous avez présenté, en public, ici même, devant quels autres publics le présentez-vous ? Devant quels autres élus, autorités publiques le présentez-vous ? Merci beaucoup.
Alors d'abord, je l'ai présenté aux différents cultes, sauf à un. À votre avis, lequel ? Les représentants du CFCM qui m'ont dit que j'attaquais le CFCM. Pourquoi ? Parce que je disais qu'il était considéré comme représentatif par 9% des Français, des musulmans. Ce à quoi j'ai répondu quand François Hollande fait à 13% dans les sondages, il ne considère pas que le journal ou l'institut qui a commandé le sondage est hostile. J'ai dit, c'est les faits. Donc j'ai présenté à tout le monde, sauf au CFCM. Par ailleurs, je l'ai partagé avec l'ancienne équipe gouvernementale et puis avec la nouvelle, ce qui demande toujours un petit peu de temps parce qu'il faut que les équipes se remettent en place. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, je vous laisse leur poser la question. Mais j'espère que ce sera utile.
Jean-François Mattei.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre exposé. Je vais juste poser deux questions. La première, vous y avez en partie répondu, mais tout de même, on a le sentiment que l'islam est très divisé, ses divisions sont à l'origine de conflits Moyen-Orient, etc. J'insiste pas. Vous n'avez pas du tout fait état de la division possible de la religion musulmane en France. Est-ce qu'y a-t-il pratiquement que des sunnites, ou y a-t-il aussi des chiites ? Est-ce qu'il y a des conflits entre eux ? Parce qu'on a le sentiment que c'est homogène, finalement, ce que vous avez dit. Et la deuxième chose, il se trouve que pendant 12 ans, j'ai été adjoint à la mairie de Marseille au dialogue interreligieux, au travers de l'association Marseille Espérance. Et un jour, j'ai eu une conversation avec l'imam qui représentait la religion musulmane à Marseille. Et je le questionnais un peu sur cet entrisme qu'il y a vis-à-vis de du respect, de la pratique religieuse. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais quand on regarde vos églises à vous, elles sont vides, vos séminaires aussi, on n'a pas du tout l'intention que ça nous arrive, donc on ne veut pas faire ce que vous nous dites de faire et dont on voit le résultat. Alors, vous n'avez pas parlé du tout des autres religions, probablement parce que ce n'était pas vraiment le sujet. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot quand même ?
Le premier point, les chiites. Il n'y a pas de chiites en France. Pratiquement pas. Pour une raison simple, c'est que les chiites, c'est essentiellement des Iraniens, quelques Irakiens, quelques Libanais, un peu de Bahreïn, etc. Il y a très peu d'Iraniens en France. Il y en a quelques-uns, mais d'ailleurs, c'est des... les moudjahidines du peuple, c'est des Iraniens, mais un peu particuliers. Et puis les Libanais, notamment, assez nombreux en France, il n'y a pratiquement pas de chiites, c'est plutôt des chrétiens et puis quelques musulmans. Donc il n'y a pas de sujet, le grand conflit chiite-sunnite, auquel d'ailleurs moi je ne crois pas, il n'est pas présent en France. Par contre, il y a un conflit entre les Algériens et les Marocains, et si vous étiez, élu à Marseille, les Comoriens, et puis quand même aussi un petit peu les Tunisiens, et puis peut-être, bon. Mais c'est pas un conflit religieux. Y a ceux qui sont vraiment différents, c'est les Turcs. Les Turcs, d'abord, parce qu'il y a répondent, une école juridique, ils sont sunnites, mais une école juridique qui est différente. Et puis par ailleurs, eux, ils sont pris en charge par l'État turc du soir au matin, du matin au soir, avec un contrôle sur la communauté qui est exercé par l'intermédiaire de la religion et par l'administration de la religion. En Turquie, qui s'appelle la Diyanet, et puis par une association musulmane qui était proche des frères musulmans, qui s'appelle le Millî Görüş, les deux étant en train de fusionner à la faveur de l'AKP islamiste. La communauté avec laquelle on aura le plus de problèmes d'intégration, c'est pas les Algériens, c'est pas les Marocains, c'est pas les Tunisiens, ce sont les Turcs. Quant aux autres religions, je crois que, cher Monsieur le Président, on n'a pas le temps. Et très sincèrement, je préférais ne pas m'avancer sur un sujet que j'ai un peu moins travaillé que les autres. Voilà.
André Vacheron.
Merci, Monsieur le Président. Oui, deux brèves questions, monsieur, après cet excellent exposé. Première question, ne pensez-vous pas que le service militaire était un bon élément d'intégration des musulmans dans la population française ? Deuxième question, quel est l'indice moyen de fécondité des femmes musulmanes à l'heure actuelle dans notre pays ? Celui des Françaises est un petit peu inférieur à deux enfants.
Alors, le service militaire, un seul chiffre, la troupe est composée aujourd'hui de 10 à 15% de musulmans. On le sait comment, d'abord parce qu'on a un service d'aumônerie, et puis parce que on a des besoins spécifiques pour les soldats de halal, j'allais dire de kasher, de pèlerinage, etc. Donc en fait, on sait le mesurer. C'est une des rares institutions de la République où, de fait, on sait mesurer la pratique et l'appartenance religieuse. Donc 10 à 15%, en fait, c'est pas mal, hein. Il n'y aurait pas d'armée française s'il n'y avait pas de musulmans. Il faut le rappeler de temps en temps. Après, la fécondité, j'en parlais, elle est... Je ne crois pas qu'il y ait d'enquête sur les femmes musulmanes. On a des enquêtes sur les femmes immigrées, et chez ces femmes immigrées, on sait à peu près qu'elles sont aux trois quarts musulmanes. Là, il y a une fécondité qui est un peu supérieure, qui d'ailleurs permet d'arriver à 2,1 quand effectivement celle des Françaises non immigrées est plutôt de 1,9, mais elle est supérieure pas parce qu'il y a une surfécondité, parce qu'elles sont plus jeunes. Comme elles sont plus jeunes, elles ont comparativement plus d'enfants. Donc, mais leur fécondité est pas plus importante, puisque la fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme de 15 à 50 ans, 45 ans.
Vous avez insisté sur la nécessité de mettre en place un conseil théologique pour entreprendre le travail intellectuel d'adaptation de l'islam à la réalité française, mais de tels conseils existent déjà. Il y a le conseil théologique des musulmans de France, indépendant des fédérations, le conseil théologique auprès du CFCM. Leur travail est limité, il reste marqué par un fort littéralisme. L'enjeu n'est-il pas de dépasser ce littéralisme qui bloque toute évolution et toute ouverture ? Est-il possible de le faire au sein de l'islam institutionnel ? Ne faut-il pas, comme en Allemagne ou aux États-Unis, que l'État soutienne un vrai travail théologique modernisateur, en particulier au niveau des universités ?
Alors, c'est évidemment une question essentielle. Il y a deux difficultés aujourd'hui. La première, et il ne faut pas se cacher, on a un problème de niveau intellectuel. On a des gens qui sont mal formés, y compris les théologiens. On a des imams qui sont extrêmement, eux, peu formés. Un imam, c'est jamais que quelqu'un qui conduit la prière. Hein. Ça vient d'un mot qui signifie être devant. Et pour être devant, il faut avoir des éléments de culture et de culte. Mais il n'y a pas de formation. Dans les pays musulmans, il y a des formations qui sont administrées par l'État. On dit toujours qu'il n'y a pas de clergé dans le sunnisme. C'est complètement faux. Il y a des clergés, mais qui sont des clergés nationaux. Mais en France, on a un problème intellectuel. Et d'ailleurs dans le monde musulman aussi. Deuxième sujet, c'est que le dogme, la norme religieuse est tenue par les islamistes. Et quand je dis tenue, c'est tenue, c'est-à-dire que c'est violent. Quand on prétend se détacher de la norme, on est menacé. Menacé dans le monde musulman et menacé aussi en France. Alors, que peut faire l'État ? Il pourrait aider en Alsace-Moselle, mais on revient au sujet du concordat. Moi, je crois plutôt que le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de donner la capacité à la nouvelle génération de prendre en charge le culte, à commencer par son financement. Et c'est techniquement pas très compliqué. Il y a un acte politique, il y a un acte de confiance. Il y a un acte de confiance qui va créer la légitimité. Et cette légitimité va être se fonder sur l'efficacité. Une fois qu'on a cet acte de confiance, on a les moyens d'avoir des flux financiers réguliers, et dans l'emploi des ressources qui ont été collectées, il y aura le salariat des imams, qui est un vrai sujet puisqu'ils sont aujourd'hui très mal payés, du coup très peu considérés, et leur formation. Si on tient l'argent, on crée une colonne vertébrale qui n'existe pas, et on peut mettre en place un système global du début à la fin. Donc moi, la seule chose que je crois que l'État doit faire, c'est de faire cet acte de confiance vers la nouvelle génération sur la base d'un contrat moral, d'un contrat de valeur. Il y a quelque chose qui ressemblera dans un autre contexte avec le Grand Sanhédrin. C'est un acte politique. Et puis après, il y a un contrat opérationnel. Je connais les limites du Grand Sanhédrin. Et il y a un contrat opérationnel pour faire fonctionner un système, mais en lui mettant de la transparence, du professionnalisme, et une forme d'engagement au service de la société.
La dernière question est de Marianne Bastide-Bruguière.
Merci, Monsieur le Président. Elle complète celle de Monsieur Mattei. J'ai été très surprise dans votre remarquable exposé que vous ne fassiez pas du tout état de distinction entre les différents groupes qui composent cet ensemble musulman. Monsieur Mattei, vous avez discuté des différences entre Maroc, Tunisie, Turquie. Moi, je m'interrogeais, la distinction entre l'islam des pays d'Afrique du Nord et de Turquie, du bassin méditerranéen, et l'islam subsaharien, a-t-il une incidence ou non sur les différents problèmes que vous avez évoqués et sur lesquels vous avez parlé de façon tout à fait remarquable?
Alors, techniquement, c'est à peu près le même islam. Ils sont sunnites, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et ils sont de rite malékite. Ce qui n'est pas le cas des Turcs, qui sont de rite hanafite, donc une école juridique qui est très différente, enfin qui est un petit peu différente. Après, ce n'est pas les mêmes sociétés. Et en fait, tout le débat, c'est que les musulmans, mais les islamistes vont vous dire, l'islam vous dit de faire ça. Mais bien souvent, ce sont des faits culturels. Si on prend la polygamie, par exemple, il n'y a plus de polygamie au Maghreb, depuis longtemps. Il y en a encore en Afrique subsaharienne, et par exemple au Mali. Il y a de la polygamie en France, chez les Français ou les immigrés d'origine subsaharienne. Ils vont vous dire, c'est l'islam qui dit ça. Mais est-ce que c'est l'islam ou est-ce que c'est leur culture d'origine? Donc là, oui, il y a des différences, mais en fait, ça va être des différences culturelles qui vont être recouvertes ou pas du nom de l'islam.
La question de la radicalisation, est-ce que ça a une incidence ou non? Enfin, ou est-ce que c'est, le phénomène est général et en réalité...
La radicalisation, on commence malheureusement d'une certaine manière à avoir des bases de données. On voit qu'il y a d'abord des convertis et un nombre supérieur à leur nombre dans la communauté musulmane. Et après, il y a des gens d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne, évidemment plus maghrébine, puisqu'il y a plus de maghrébins que de subsahariens, mais il n'y a pas de différence. Les seuls qui sont absents, c'est les Turcs. Et les Turcs qui sont absents, pour une bonne raison, c'est qu'ils sont contrôlés d'une main de fer par la Turquie. Et ils sont contrôlés par la religion, par des systèmes sociaux, par des systèmes entrepreneuriaux et par des systèmes politiques. La contrepartie, c'est qu'ils ne s'intègrent pas. Fécondité des femmes turques, on parlait de fécondité, beaucoup plus élevée que celle des femmes maghrébines. Le niveau social et éducatif des femmes d'origine turque, beaucoup plus bas que celui des femmes maghrébines. Les maghrébins sont en train, dans la violence, de s'intégrer. Dans la violence et la dislocation, etc. Les Turcs, pas du tout. Et les Turcs ont théorisé ça. Monsieur Erdogan avait déclaré il y a quelques années que l'assimilation était un crime contre l'humanité. Voilà, là, il y a une différence. Mais sinon, il n'y en a pas. Ou alors, c'est des sujets culturels.
Dans le phénomène d'assimilation, c'est quand même plus tard.
L'assimilation, c'est un processus qui est long et qui est violent. On le voit beaucoup plus en marche, à l'œuvre, avec les Maghrébins qu'avec les Subsahariens, mais pour une raison simple, c'est qu'ils sont là depuis plus longtemps. Les Subsahariens ont commencé à arriver en France à la fin des années 70, des années 80.
Monsieur El Khaoui, il me reste à vous remercier en notre nom collectif. Vous avez été aussi capable de donner des précisions méthodologiques sur les questions que vous aviez évoquées que d'aborder cette fois-ci au niveau global des sujets qui sont tout à fait fondamentaux pour l'avenir de notre pays. Merci infiniment.